Pour que la musique occidentale s'épanouisse comme elle l'a fait, il a fallu des forces de deux sens. Des forces spirituelles qui tendaient à intérioriser la musique, à lui donner une résonance humaine à la fois toujours plus profonde et plus élevée, et des forces de vitalité, car il faut à l'esprit pour qu'il se manifeste un objet et un mobile. Les forces spirituelles qui inspirent l'activité musicale occidentale n'ont pu prendre corps, pourrait-on dire, qu'à la faveur d'une consommation ardente d'une substance que leur fournissent les goûts et les appétits des races européennes, telles qu'ils se manifestent dans leur folklore. À cet égard, la Hongrie a été pour notre art musical une source précieuse. Son rôle historique eût été sans doute plus considérable encore sans les vicissitudes politiques auxquelles ce pays fut longtemps en butte. Mais il est loin d'être achevé, car la Hongrie, comme nationalité musicale, est en pleine floraison. L'importance de l'apport hongrois à la musique occidentale tient non seulement aux éminentes aptitudes musicales de ce peuple, mais au fait que son origine asiatique le faisait introduire dans notre art des éléments singulièrement fructueux et qu'il n'eût reçu d'aucune autre nation européenne. Ce fut vers 896 après Jésus-Christ, nous dit un historien, que le peuple magyar, conduit par Arpad, prit possession des territoires qu'il occupe aujourd'hui et qui avaient appartenu un certain temps aux Huns et aux Avars. Qu'il ait été chassé de sa précédente demeure entre le Dniestre, le Pont et le Céret, ou qu'il soit venu à l'appel du prince bavarois Arnolf pour combattre l'empire morave en formation, il a clos la série des migrations des peuples en introduisant au centre de l'Europe un élément ethnique nouveau, l'élément touranien. Pour justifier cette prise de possession, il mit en avant ses droits découlant de sa parenté avec les Huns, de là son nom, rappelant ces derniers, et le nom de Hongrie donné au pays qu'il habite. Si sa conversion au christianisme et sa participation à la civilisation européenne ont fait oublier au peuple magyar ses souvenirs asiatiques, il n'a jamais perdu son originalité frontière. Elle est patente dans sa musique et apparaît dans le caractère pentatonique de ses mélodies et la particularité de ses rythmes. Mais ce génie musical originel resta longtemps confiné au plan de l'art populaire et c'est ce qui explique un événement essentiel de son histoire, l'intrusion des Tziganes. Lorsque les seigneurs hongrois prirent le goût d'une musique instrumentale plus riche que celle du peuple, ils eurent recours à des musiciens étrangers, et c'est ainsi qu'ils firent un sort aux Tziganes. Nous ne nous demanderons pas comment il se fait que certaines races nomades ou déracinées se montrent à la fois profondément musiciennes et dépourvues de puissance créatrice. Les Tziganes, peuplades originaires des Indes, apparues en Europe dès le XVe siècle, d'abord en Bohême, d'où leur premier nom de Bohémiens, en sont un exemple typique. La musique des Tziganes n'est autre que de la musique hongroise prêtée à la Tzigane, de même que la musique de jazz et de la musique occidentale au goût des Noirs d'Amérique. Mais les Tziganes ont fait fleurir sur la musique qu'ils empruntaient une telle fantaisie qu'ils éclipsaient l'original et leur art a longtemps troublé les idées sur la véritable destinée de la musique hongroise. Ils ont eu en tout cas le mérite d'avoir conservé à la Hongrie un instrument merveilleux, le timbalon. Dès les débuts de l'histoire du pays, s'était produit un processus de pénétration réciproque entre la musique hongroise et celle du dehors. Mais la musique proprement autochtone restait, comme nous l'avons dit, de caractère populaire. Sous la pression politique germanique, et le prestige culturel des nations plus avancées en civilisation, les musiciens hongrois cultivés semblaient ne pas faire foi à leur fond national. Et pourtant, ils étaient nombreux. On serait étonné de voir combien de noms célèbres de la musique, au dernier siècle surtout, sont originaires de Hongrie. Et ces musiciens restaient des virtuoses, des pédagogues, ou se mettaient à la remorque d'une école étrangère. En eût-il été autrement que peut-être le cembalum aurait été incorporé à l'orchestre. Il y aurait une fonction toute trouvée et serait plus adéquate à l'orchestre moderne que le clavecin ou le piano. Si notre ami Aladar Rach, qui le possède en mer, peut continuer à l'enseigner là-bas, peut-être verrons-nous un jour cet événement. Après cette parenthèse, disons que Liszt, s'il se rattache au romantisme allemand, doit certainement à sa patrie certains traits essentiels de son génie musical. Mais avec la génération de musiciens à laquelle appartiennent Béla Bartók et Zoltán Kodály, ou Kodály comme on dit chez lui, une époque nouvelle s'ouvre. Ceux-là se dérobent au prestige qu'il a et découvrent la vraie substance de la musicalité hongroise. Il ne s'agit plus pour eux, comme pour leurs prédécesseurs, de nuancer de traits hongrois un style musical conventionnel, mais de mettre en œuvre, conformément d'ailleurs à la tradition de notre art, la matière expressive propre au génie musical de leur art, tel que le folklore le leur révèle. En agissant ainsi, Béla Bartók a enrichi du même coup toute la musique contemporaine. Son œuvre est d'une portée que nous ne pouvons pas encore mesurer aujourd'hui. Celle de Kodály répond à des visées moins lointaines, mais elle est d'une authenticité qui lui donne un grand prix. Si nous ajoutons que de nombreux compositeurs les suivent, complétés par beaucoup de virtuoses et d'interprètes remarquables, on comprendra que nous puissions saluer ce soir, dans la Hongrie, une des terres élues du royaume de la musique.